mon cours hier à l'après-midi et ce matin, en révisant, j'allais dire en rédigeant en partie mon cours, je me suis aperçu évidemment que en si peu de temps, c'était une gageure de vouloir présenter tant de choses. Alors, disons que vous pouvez, il me semble, utiliser certaines des choses que je vous dis pour travailler de votre côté, méditer de votre côté. Hein. Vous avez comme ça quelques directions, quelques pistes, et puis vous en faites le meilleur usage, parce que je me rends compte un peu que ça va grosso modo, hein, et c'est un peu dommage. Alors, aujourd'hui, le titre de ce cours, c'est « La loi et les gouvernements fondamentaux ». Et alors, je vais parler successivement et bien rapidement, évidemment, du gouvernement de soi-même, du gouvernement du mariage et de la famille, du gouvernement de l'Église et du gouvernement de l'État. Vous pouvez en faire l'expérience en interrogeant tel ou tel de vos amis ou de vos parents. Dès qu'on emploie le mot « gouvernement » dans le français de la fin du XXe siècle, on pense tout de suite à l'État. On pense tout de suite à l'État, alors actuellement on pensera à Mitterrand et à Balladur, on pense à l'État. Tandis que dans l'ancien français, dans le français classique, disons en tout cas jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, le mot gouvernement avait un sens beaucoup plus large. Et par exemple, je cite cet exemple parce que le Robert l'emploie au mot gouvernement, Montaigne parle dans ses essais du gouvernement de soi, ce que nous trouvons plutôt sous l'expression dans le Nouveau Testament, la maîtrise de soi, le gouvernement de soi. Et ça se comprend parce que le mot dans son origine latine et dans son origine grecque, parce qu'il y a une double étymologie, à la fois latine et grecque, la latine dépendant d'ailleurs de la grecque, ça signifie simplement l'action de diriger, l'action de conduire. Et donc, on peut parler légitimement du gouvernement de soi, du gouvernement du mariage de la famille, etc. Et c'est pour ça que j'emploie le mot gouvernement, faute d'un mot meilleur. Si vous voulez, il fallait que je trouve un mot qui puisse être commun à la maîtrise de soi, au mariage de la famille, à l'État, à l'Église. Bon, ben le seul mot que j'ai trouvé, mais c'est peut-être parce que j'ai pas assez cherché, c'est le mot gouvernement. Le mot gouvernement. En latin, on a un verbe gubernare qui a le même sens que le mot gouverner dans l'ancien français. Et en grec, il y a un substantif gubernesis. Qui se trouve employé une fois dans le Nouveau Testament, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 28, le mot gubernesis, là, parlant justement de la direction des autres dans l'Église, ceux qui ont reçu le don de diriger l'Église. Donc, fait allusion à ce qu'on appelle couramment les anciens. Hein? Donc, nous avons affaire à un mot, gouvernement, qui se rapporte à l'Église. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous donne ces indications. Montaigne parle du gouvernement de soi, le Nouveau Testament emploie le mot grec « kubernesis » pour désigner le gouvernement de l'Église, et donc, nous avons des questions. Alors, il y a un mot tout proche de gubernesis, c'est le substantif gubernetes, qui désigne dans Actes 27, 11, le capitaine d'un navire, là il s'agit du navire sur lequel se trouve saint Paul, et en Apocalypse 18, 17, il est question du pilote. D'ailleurs, quelquefois, on traduit dans Actes 27, 11, non pas par capitaine, Ça, c'est un certain nombre de versions traduites par capitaine, mais il y en a encore qui traduisent pilote. Je crois que, en fait, on ne peut pas, dans acte 27-11, traduire par pilote, parce qu'il s'agit manifestement de celui qui dirige le navire, non pas au sens où un pilote à la barre dirige le navire, mais il s'agit vraiment de celui qui a le commandement du navire, donc ce que nous appelons le capitaine d'un navire. En fait, la maîtrise de soi, dans le Nouveau Testament, est désigné par un mot curieux, egkrateia, egkrateia. Et si on colle à ce mot très exactement, c'est formé à la fois de ego, hein, de ego, et de krateia, qui a donné en français crassie, la démocratie, l'aristocratie, voyez, qui indique le gouvernement de soi. Hein, ça veut dire l'égocratie. L'égocratie, si on transcrit le mot grec en français, ça donne exactement l'égocratie, le gouvernement de soi. Quand il s'agit d'ailleurs d'indiquer être maître de soi, ou se dominer, comme dans 1 Corinthiens 7-9, on emploie le verbe, qui correspond à ce substantif ekrateia, ekrateo opri. Donc, si vous voulez, nous avons l'idée de gouvernement présent dans le Nouveau Testament sous des formes très variées, puisque ça va aussi bien du commandement d'un navire, ça on est éloigné du sens dans lequel je crois aujourd'hui, mais enfin quand même c'est l'idée de diriger, de pilote, et puis on a l'idée de la maîtrise de soi, ou pour le substantif, ou de être maître de soi, se dominer du côté du verbe. Et si on creuse un peu dans l'écriture, on s'aperçoit que tous ces gouvernements dont je vous parle ce matin, gouvernement de soi, gouvernement du mariage et de la famille, gouvernement de l'Église, gouvernement de l'État, tout ça est placé sous le gouvernement de Dieu. Au fond, c'est Dieu qui est le souverain Seigneur au-dessus des différentes formes de nos gouvernements humains. Et on peut dire qu'au fond, tous ces gouvernements humains doivent se laisser constamment gouverner, maîtriser, diriger par la parole de Dieu, par la loi de Dieu. Donc, si vous voulez, c'est très important parce que vous avez des théories sociales, enfin, je dirais plutôt des pratiques sociales dans l'histoire, qui ont exalté un gouvernement humain au-dessus de tous les autres. Évidemment, c'est rare, c'est très rare, mais si vous voulez, je pousse un peu les choses. Quand Louis XIV a dit, ou on prétend qu'il a dit, l'État, c'est moi, on a une forme typique du gouvernement de soi, identifié au gouvernement de la nation. Mais, si vous voulez, pour l'Église, pour l'État, c'est ça. Au Moyen-Âge, les papes, peu à peu, ont voulu tenir ce qu'on appelait les deux glaives, le glaive temporel et le glaive spirituel, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les nations européennes, pendant un certain temps, étaient en fait soumises, non seulement spirituellement, mais temporellement, au pape. Le pape avait pouvoir, gouvernement sur la famille, sur les États, comme d'ailleurs le pape avait gouvernement sur l'Église. Et puis, à l'inverse, la plupart des États modernes sont des États totalitaires, des gouvernements totalitaires. Bien sûr, il ne s'agit pas de penser, quand on parle de gouvernement totalitaire, seulement à Hitler ou à Staline, mais je dirais même nos démocraties occidentales ont tendance à devenir ou à être, en fait, d'une certaine façon, des gouvernements totalitaires, en ce sens que c'est l'État qui promulgue des lois et qui entend gouverner aussi bien le mariage, la famille, que peut-être pas l'Église, parce qu'après tout on relègue l'Église un peu sur les bas côtés, mais en tout cas il y a une tendance d'État totalitaire. Et au fond, la loi, ce sont les lois décidées par le gouvernement. Et ça, c'est valable aussi bien pour un État comme les États-Unis, pour un État comme la Grande-Bretagne, pour un État comme la France. La tendance moderne, c'est le gouvernement de l'État au-dessus de tout autre gouvernement. Et ça, c'est foncièrement non-biblique. Parce que pour la Bible, il y a un gouvernement, nous en parlerons encore demain, un gouvernement qui est le gouvernement de Dieu, qui est la seigneurie de Dieu, c'est la loi de Dieu qui domine tout. Et puis, alors, il y a des gouvernements qui, par rapport aux autres gouvernements, sauf le gouvernement de Dieu, ont une certaine autonomie. L'Église a une certaine autonomie, la famille a une certaine autonomie, et l'État a une certaine autonomie. Au fond, il y a un domaine de l'État, un domaine de l'Église, un domaine de la famille, etc. Tandis que la tendance moderne, humaniste moderne, c'est que le gouvernement appartient à l'État. C'est l'État qui... Alors, si vous voulez, c'est très curieux, parce que c'est ce qui explique pourquoi les luttes au sujet de la laïcité prennent en France, mais pas seulement en France, ça commence tout à fait aux États-Unis en ce moment, des choses, ça devient des conflits très aigus. C'est parce qu'au fond, l'Église a régenté, ou entendu, ou voulu régenter tous les domaines de l'existence, au Moyen-Âge, tout au moins à la fin du Moyen-Âge, et qu'aujourd'hui, c'est l'État qui veut tout arranger. Alors on a le conflit terrible, c'est que l'Église, autrefois, était aussi maîtresse des écoles, et l'État, maintenant, veut être maître des écoles. Disons plutôt, l'Église voulait avoir en sa main l'éducation, et aujourd'hui, c'est l'État qui veut avoir en main l'éducation. Et on peut se poser la question, est-ce que bibliquement, le point de vue, j'allais dire, des cléricaux et le point de vue des laïcs est tellement conforme à la Bible? Et je crois que la réponse, c'est évidemment non, parce que justement, ce que fait la Bible, c'est qu'elle relativise tous les gouvernements humains. Et au contraire, elle maintient le caractère absolu du gouvernement de Dieu. Et le gouvernement de Dieu ne peut pas être identifié au gouvernement de l'Église. C'est l'erreur cléricale, c'est l'erreur d'une certaine philosophie ou théologie médiévale. L'Église n'est pas appelée à tout gouverner. L'Église a son domaine, elle est maîtresse dans son domaine, elle a le gouvernement de son domaine. En ce sens, elle a une autonomie, non pas par rapport à Dieu, mais par rapport aux autres domaines. Il en est de même pour l'État. Alors vous voyez, on touche là à des questions très profondes. Et qu'on oublie. Moi, je suis frappé de voir que dans le conflit qui dure déjà depuis quelques années, il y a eu la fameuse manifestation pour l'école libre il y a quelques années, il y a la grande manifestation pour l'école laïque cette année. Au fond, les Français sont prêts à être mobilisés pour le gouvernement de l'Église ou pour le gouvernement de l'État sur l'éducation. Mais au fond, on ne se pose pas tout de même la question, non seulement et la famille dans tout ça, mais on ne se pose surtout pas la question, et la loi de Dieu dans tout ça. Et pour les catholiques, il y a un blocage qui dit Dieu même pour l'Église. Ouais, c'est ça qu'on appelle l'ecclésiocratie. L'ecclésiocratie, mais il y a aussi le statocratie qui veut que ce soit l'État qui gouverne tout. Donc vous voyez, nous sommes appelés par notre réflexion biblique à distinguer entre les différents gouvernements. Abraham Kuyper, à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, parlait des différents domaines. Il y a des domaines. Et alors, dans chacun de ces domaines, il y a un gouvernement, mais il n'y a pas un des gouvernements humains qui peut avoir le droit de s'ériger au-dessus des autres gouvernements humains. Parce que tous les gouvernements humains sont placés devant le Seigneur, Coram Deo, ou bien tous les gouvernements humains sont placés en fait sous l'autorité du Seigneur. Bon. Alors maintenant, après cette introduction un peu générale, j'en viens à dire quelques mots du gouvernement de soi-même. Le gouvernement de soi-même, l'ekrateia ou égocratie, est nommé par saint Paul comme un aspect du fruit de l'esprit. Là, je vous fais une petite remarque. Bien souvent, j'ai entendu des pasteurs, ou j'ai même lu sous la plume des théologiens, on parle des fruits de l'esprit. Vous savez que c'est un passage de l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, où il est question, non pas des fruits de l'esprit, mais du fruit de l'esprit. Pourquoi c'est important de maintenir, comme il y a dans le texte, le singulier, le fruit de l'esprit? C'est parce que si on fait le pluriel, les fruits de l'esprit, ça veut dire, eh bien, au fond, l'esprit peut accorder tel de ses fruits. On peut même peut-être choisir entre ses fruits ou autre. Tandis que l'apôtre Paul le dit au singulier. Hein, il dit la maîtrise de soi est citée avec l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi et la douceur. Et tout ça, c'est le fruit de l'esprit. Autrement dit, l'esprit donne à chaque fidèle ce fruit de l'esprit qui comprend ces 9 aspects différents. Mais c'est le fruit de l'esprit. Alors, j'attire votre attention là-dessus, n'employez pas l'expression « les fruits de l'esprit », mais employez le singulier, le fruit de l'esprit, en montrant que ce fruit de l'esprit est un fruit très riche, parce que c'est un fruit qui comporte un ensemble inséparable. Et l'inséparable, c'est ces 9 aspects que Paul énumère dans Galates 5, 22. Mais l'apôtre Pierre, là, c'est dans la seconde de Pierre, au premier chapitre, au verset 6, l'apôtre Saint-Pierre, lui, demande aux fidèles de faire tous leurs efforts, hein, c'est ce que dit, il faut faire tous leurs efforts pour joindre à leur foi, pistis, la vertu, arete, à la vertu, la connaissance, gnosis, à la connaissance, la maîtrise de soi, ekrateia, à la maîtrise de soi, l'hypomone, je m'arrête une seconde, je laisse le mot hypomone avant de vous en dire un mot, à l'hypomone, la piété, eusebeia, le prénom Eusebe, au fond veut dire le pieux, celui qui est pieux, à la piété, l'affection fraternelle, philadelphia, et à la philadelphia, l'amour agapé. Alors donc, tandis que Paul parle du fruit de l'esprit avec les 9 aspects qu'il énumère, l'apôtre Pierre, lui, demande à tous les fidèles de faire tous leurs efforts pour joindre ensemble un certain nombre de choses, depuis la foi, pistis, jusqu'à l'amour agapé. Alors j'ai laissé de côté le mot hypomone. Le mot hypomone est un mot que les traducteurs ont beaucoup de peine à traduire par un mot français. J'ai vu, par exemple, j'ai vérifié avant de venir qu'il y a on traduit quelquefois par ténacité, on traduit quelquefois par patience, on traduit quelquefois par persévérance, etc. Donc il y a des versions diverses de ce mot hypomone. En fait, le mot hypomone est un mot très important. Si vous regardez dans une concordance, je parle d'une concordance grecque, au mot hypomone, vous verrez que c'est un mot souvent employé dans l'Ancien Testament. Et alors, il vient de 2 mots grecs, d'un mot qui veut dire tenir, le verbe tenir, et puis hypo, sous, tenir sous. Alors, en gros, si vous voulez, nous sommes menacés, d'abord, d'une façon temporelle. Il faut tenir sous la durée de l'épreuve. Parce que, au fond, par exemple, encaisser un coup, c'est une chose. Mais quand c'est quelque chose qui dure, quand dans le temps, il faut tenir. Là, c'est beaucoup plus dur, parce que les semaines, les mois, les années peuvent passer et il faut endurer dans la durée. Il faut tenir bon sous la durée. Alors là, si vous voulez, c'est plutôt la persévérance. Il faudrait peut-être pas dire par persévérance ou par ténacité. Je pense que ceux qui ont traduit par ténacité, humobusé, ont pensé à ça. Mais alors, il y a l'autre aspect. Parce qu'il ne faut pas seulement tenir dans le temps, mais il faut tenir, je dirais, sous le poids. Sous le poids. Parce qu'évidemment, quelque chose qui dure peut, il faut endurer parce que ça dure, mais quelquefois, je dirais, il faut tenir bon sous quelque chose de très violent, sous un coup. Je prends par exemple un exemple, imaginez un homme marié ou une femme mariée qui, soudainement, de façon inattendue, suite à l'accident, perd son conjoint. Bon. Alors, il va falloir tenir bon sous un coup qui est très, très, très dur. Au point de vue, on peut bien dire que la durée jouera un rôle aussi. Non, mais il y a aussi le fait de la brutalité comme instantané du coup. Alors, certains ont joué le jeu de la façon suivante. Je n'ai trouvé qu'une fois cette expression. On traduit hypomonée par patience persévérante. Patience persévérante. Pour conjoindre les deux éléments. Mais l'idée que nous devons garder, c'est ça que je demande de garder, pour bien comprendre le sens de mot, ça veut dire tenir sous. L'action de tenir sous. Enfin, dans tout cela, il s'agit donc de voir que au cœur de cet ensemble, c'est au milieu, on peut dire cet ensemble, il y a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Alors faisons un détour en parlant d'un autre mot. Je vous ai déjà parlé un peu de ce mot grec hypomoné. On va parler maintenant d'un mot grec, d'un mot hébreu, qui désigne le cœur. Le cœur. Si vous vérifiez dans une concordance, le mot cœur est employé des centaines de fois. Je crois qu'il est employé plus de 500 fois dans l'Écriture sainte. En hébreu, vous savez, c'est lev, le plus employé, aussi quelquefois levav, mais ça désigne le cœur. Et le cœur ne désigne jamais, je crois jamais, il faut le vérifier, mais je crois que jamais, ne désigne le muscle que nous avons dans la poitrine. Mais désigne toujours notre ego, notre personnalité, notre être profond et central. D'ailleurs, quand dans la Bible il est dit de tout notre cœur, ça signifie de tout notre être. Alors, si vous voulez, c'est ce qui s'exprime dans le pronom « je ». Par exemple, souvent, n'est-ce pas, nous disons « je pense »,« je marche »,« je lis »,« je m'assieds »,« je parle »,« j'écoute »,« je », etc. Et au fond, c'est ça, le cœur. C'est ce « je » qui est caché en chacun de nous et qui est constitutif fondamentalement de notre être. Parce que tout le reste, je dirais, ce sont des attributs de notre être, mais c'est ce « je » qui est, j'allais dire, notre moi profond, notre personnalité. C'est ça, le cœur dans la Sainte Écriture. Et alors, le cœur doit être converti, en ce sens que nous avons au départ un cœur incirconcis, un cœur endurci, un cœur détourné de Dieu, désorienté par rapport à Dieu. Et au fond, qu'est-ce que la conversion? D'ailleurs, c'est un mot qu'on emploie aussi en géométrie. Au fond, qu'est-ce que c'est la conversion? C'est qu'au fond, réorienter ou avoir le cœur réorienté vers celui qui est Dieu, qui est le Seigneur, qui est l'absolu. Généralement, notre cœur absolutise des relatifs, se détourne de Dieu pour honorer des idoles ou des idées ou des images. Et il nous est interdit justement de servir des images, de servir des idoles, de servir des idées par le décalogue. Et au fond, la conversion du cœur, c'est lorsque notre moi désorienté se réoriente ou est réorienté vers Dieu. Alors, la Bible emploie des termes très curieux. On parle bien sûr de la conversion du cœur, mais on parle aussi de la circoncision du cœur ou de l'unification du cœur. Quand il nous est dit dans les béatitudes, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, le mot pur ici signifie très exactement heureux le cœur qui est bien réorienté. Si vous voulez, aussi dans la Bible, on parlera d'un cœur droit. Un cœur droit. C'est un cœur qui ne va pas bifurquer dans une mauvaise direction. C'est un cœur qui est dans la bonne direction, qui est droit dans la bonne direction, qui est vraiment à nouveau tourné vers Dieu et qui reçoit de Dieu toute chose. Alors, au fond, c'est ce cœur, c'est-à-dire notre moi profond, qui doit assumer le gouvernement de soi. C'est-à-dire que notre cœur converti, circoncis, unifié, doit diriger, selon la parole de Dieu, notre intelligence, nos sentiments, notre volonté, notre corps, bref, tout ce qui nous constitue. On peut dire que c'est ça qui est très important. Il ne s'agit pas que notre intelligence soit convertie, ou que nos sentiments soient convertis, ou que notre volonté soit convertie, ou que notre corps soit converti. Il s'agit que notre cœur soit converti. Mais si notre cœur est converti, alors il doit assurer le gouvernement de tous les aspects diversifiés de notre être. Notre cœur unifié doit unifier tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous faisons. Voilà. Alors, ça va très loin. Et alors, il faut veiller, ce sont les expressions bibliques, dans tout ça, j'en prends les expressions bibliques, vous pourrez le vérifier, il faut ne pas endurcir notre cœur, ne pas fermer notre cœur, mais diriger notre cœur vers le Seigneur. C'est un grand mystère, le cœur. Dans le livre des Proverbes, qui est un des livres qui parle, j'allais dire, avec le plus de doigté et d'acuité du cœur, le livre des Proverbes a une phrase, par exemple, il y a deux phrases que je vais citer. Il y en a une que vous connaissez bien, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Tout découle de notre cœur. » C'est pour ça que c'est très important, la conversion du cœur, de notre moi profond, de notre je, J-E. Hein, c'est fondamental, parce que si notre cœur est converti, alors il va pouvoir maîtriser, gouverner tous les aspects de notre vie. Tandis que si c'est seulement notre pensée qui est tournée vers Dieu, ou nos sentiments qui sont tournés vers Dieu, ou notre volonté qui désire Dieu, ça ne suffit pas. Parce que c'est un aspect de notre vie. Tandis que si notre cœur est gagné à Jésus-Christ, si notre cœur est vraiment converti, revenu vers Dieu, retourné vers Dieu, alors il y a donc cette phrase, sur le Proverbe, c'est au chapitre 4, verset 23. Et puis alors, vous avez au chapitre 20 et au verset 5, une phrase que je vais citer aussi, c'est les deux seules phrases que je cite à propos du cœur, « Les pensées dans le cœur humain sont des eaux profondes. » Les pensées dans le cœur humain sont des eaux profondes. Alors il faut toujours penser à ça. À qui ai-je donné mon cœur? Et vous savez que Jésus, emploie plusieurs images différentes, mais qui tournent toujours autour de ce fait. Autour de ce fait. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvaises volontés, les mauvais sentiments. Parce que c'est le cœur qui est la source de la vie. Tant qu'il n'est pas converti, ou tant qu'il se refuse à Dieu, ou tant qu'il s'endurcit contre Dieu. Mais au contraire, si le cœur est donné à Dieu, il est appelé à maîtriser tous les aspects ou toutes les parties ou tous les domaines de notre vie. Donc, voilà les quelques mots que je voulais dire au sujet du gouvernement de soi-même. Mais maintenant, je voudrais en venir, d'abord d'une façon plus générale, au gouvernement du mariage et de la famille, de l'Église et de l'État. Pourquoi je prends toutes ces choses en même temps, dans une partie générale, c'est que Dieu a voulu qu'il y ait dans chacune des sociétés fondamentales qu'il a instituées, qu'il y ait un gouvernement. Et je dirais que ça crée des responsabilités. Ça crée des responsabilités. Dans le mariage et la famille, il y a le gouvernement du mari. Vous savez que c'est très intéressant de voir combien l'Église moderne s'est laissée impressionner par l'humanisme ambiant. On a fait sauter de la liturgie des mariages tout ce qui rappelait que le mari était le chef de la femme, tout ce qui invitait le mari à prendre sa responsabilité, qui est redoutable. Dans un mariage, quand ça ne marche pas, la responsabilité première est celle du mari. D'ailleurs, ça remonte ça à la chute elle-même. C'est très intéressant de voir au fond. Qu'est-ce qui a été tenté la première? C'est Ève. Mais comment se fait-il qu'on ne parle pas du péché d'Ève, mais du péché d'Adam? C'est parce que dans l'histoire, Adam a lâchement abandonné son rôle de chef de la femme. Il n'a pas pris les choses en main. Et il est donc le grand fautif. Le grand fautif. Eh bien, je dirais, mon expérience pastorale, qui est quand même longue, puisque j'ai été 40 ans pasteur, eh bien, en fait, j'ai vérifié cela. Quand ça ne marche pas dans un mariage, la première chose à voir, c'est-à-dire celui qu'il faut voir, c'est le mari. Et il faut placer le mari devant ses responsabilités. Même si c'est la femme qui l'a trompé. Même si c'est la femme qui a fait ci ou qui a fait ça, etc. C'est le mari. Être chef de la femme, c'est pas, être le tyran de sa femme. Pas plus que Jésus-Christ n'est le tyran de son épouse, qui est l'Église. Et ça, la lettre aux Éphésiens nous le dit. Il faut aimer sa femme. Si je suis mari, je dois aimer ma femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Ah, se donner pour elle. Quand on pense le mot chef, le mot autorité, le mot gouvernement, tout ça, ça, immédiatement, à cause en partie de l'État moderne, ça nous fait toujours penser à une tyrannie, à quelque chose de... Mais c'est le contraire d'une tyrannie. Un mari qui est tyran n'est aucunement le chef de sa femme. Il est le tyran de sa femme, mais il n'est pas son chef. Parce qu'être le chef de la femme, Saint Paul nous le montre, mais pas seulement Saint Paul. Il faut là relire tout ce qui est dit du mariage, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. C'est une responsabilité extraordinaire, n'est-ce pas ? Et c'est toujours le mari qui doit... Okay, c'est très curieux d'ailleurs. Il est dit, Marie, aimez votre femme. Comme le prix. Et c'est très curieux. Vous ne trouvez pas l'expression correspondante, femme, aimez votre mari. C'est quand même très... C'est très significatif. On peut dire qu'une femme ne doit pas aimer son mari. Bien sûr qu'une femme doit aimer son mari. C'est pas la question. Mais l'important, l'essentiel pour la vie conjugale, c'est que le mari aime sa femme. Et qu'il agisse en se donnant pour sa femme. Aimer c'est, sa femme, c'est être le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, et s'est donné pour elle. Et d'ailleurs, là je vais un peu vite, parce que je n'ai pas le temps d'aller lentement, mais il y a là quelque chose de très important, sur le sens du gouvernant. De même dans la famille, alors là, dans la famille, c'est très intéressant, dans la famille, c'est les parents qui sont appelés au gouvernement de leurs enfants. Alors là, nous touchons à quelque chose de très très important, sur un autre plan. Alors là, le livre des Proverbes aussi est très éclairant. C'est que les parents doivent être ensemble pour l'éducation de leurs enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut bien voir combien beaucoup d'enfants vont être complètement, j'allais dire, désorganisés et dépouillés de choses, dès qu'il y a un seul départ. Vous savez qu'à l'heure actuelle, un des drames, c'est que vous avez des femmes qui volontairement mettent au monde des enfants sans qu'il y ait de père. Bien sûr, il y a toujours un père. Mais je dirais, sans qu'il y ait vraiment de père. Je connais, parce que ça a commencé déjà il y a un certain nombre d'années, je connais des femmes non mariées, même non concubines, mais qui ont voulu avoir un enfant. Elles voulaient avoir un enfant. Pas question de s'encombrer d'un homme dans l'histoire. L'homme avait un rôle génétique à jouer, mais il n'y avait pas. Et alors c'est terrible. Pour qui c'est terrible? Ça va être terrible d'abord pour l'enfant. Parce que non seulement, ce qui est grave, c'est que cet enfant qui ne saura même pas qu'il a un père et qui est son père. C'est très différent, par exemple, d'une jeune femme qui met au monde un enfant et puis qui perd son mari, qui devient veuve, etc. Parce que là, je dirais, il va y avoir quand même l'ombre du père. Et le père va quand même jouer un rôle pour l'enfant de cette veuve. Bien sûr, c'est mieux lorsque les parents sont vraiment toujours ensemble. Mais d'une certaine manière, une veuve peut, je dirais, prendre avec elle dans l'éducation de l'enfant la mémoire du père et l'image du père et être aidée par ça. Enfin, là, on se trouve dans un problème très compliqué. Parce que pour la Bible, les deux parents jouent. Alors là, tout à l'heure, hier, je vous ai parlé rapidement, en quelques mots, de la question de l'homosexualité, ce qui est très grave dans les couples homosexuels qui adoptent ou qui élèvent des enfants, c'est qu'alors là, tout est faussé. Parce qu'il ne va pas y avoir, si c'est un couple homosexuel féminin, il ne va pas y avoir de père. Si c'est un couple homosexuel masculin, il ne va pas y avoir de mère. Mais là aussi, on ne se rend pas compte du mal qui est fait aux enfants. Alors ces créatures de Dieu, là aussi, il faut que l'Église alors emporte un souci particulier. Moi, je pense quand même combien c'est une charge à l'heure actuelle pour les églises que les enfants de ces couples homosexuels. Parce que le couple homosexuel, bon, il y a des choses qu'on peut lui dire, il y a des choses. Mais je dirais, il faut penser aux enfants de ces couples, ou ces enfants qui sont élevés par ces couples et qui vont avoir tout faussé, à cause même de cette image doublement féminine ou doublement masculine qui va être devant eux. Alors, si je vous dis cela, c'est parce que, fondamentalement, le mariage est une alliance. Le mot « berit » alliance est employé pour le mariage dans le livre du prophète Malachi, au chapitre 2 et au verset 14. C'est une alliance. C'est une alliance. Et c'est une alliance où il y a engagement par serment, et je dirais quand tout se passe, j'allais dire comme ça devrait se passer, tout est engagé. Parce qu'au moment de l'engagement réciproque d'un homme et d'une femme dans le mariage, il y a comme témoin l'Église, représentée par un ministre ordonné, il y a la famille, représentée par la parenté, et il y a l'État, puisque l'État, en tant que représenté par un officier d'État civil, si bien que on peut dire que les différents gouvernements institués par Dieu, celui de l'Église, celui de la famille et celui de l'État, sont témoins de l'engagement d'un mariage. Et c'est ça, je dirais, qui, qui manque à l'heure actuelle. D'abord, je crois que l'Église a tué une prédication qu'elle aurait pu donner, qu'elle doit donner au sujet du mariage, mais non seulement elle a tué cette prédication, mais dans ses catéchismes, elle a tué un enseignement. Dans ses Églises, elle a tué un enseignement qui était très important. C'est qu'au fond, le lien d'amour entre deux êtres est une chose différente de l'alliance qui est contractée volontairement par un homme et une femme, et dont sont témoins la famille, l'État et l'Église. Et le mariage, c'est ça, c'est ce qui fait la grandeur et la singularité du mariage tel que Dieu l'a institué. Vous avez d'ailleurs une expression de la Genèse qui est très importante, et qui montre la fondation par un mariage d'une nouvelle famille. Quand Dieu dit: l'homme quittera son père et sa mère, hein, c'est le verbe azab, là, l'homme quittera son père et sa femme, et, alors là c'est le verbe dabak qui est utilisé, et on dit, et s'attachera à sa femme. Mais le verbe dabak va plus loin que ça. En français d'ailleurs, il vaut mieux ne pas le dire comme ça, parce que ça ferait sourire et puis on ne comprendrait pas tout de suite. Mais c'est un verbe qui signifie littéralement coller. Et l'homme collera à sa femme. Pourquoi? Parce que ils ne sont plus deux, mais un. Et c'est pour ça que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Alors, il faut voir, là le mot coller, on pourrait traduire aussi adhérera à sa femme. Peut-être que, comme ça, on a le mot coller, il faudrait un peu sourire et choquer, tandis que le mot adhérera, il adhérera à sa femme. Il y a une adhésion. Alors c'est une adhésion totale du cœur, du corps. On adhère. Et c'est pour ça qu'il y a là dans le mariage une grandeur. Et c'est ce qui fait que le mariage est une société instituée par Dieu, et je dirais est un don de Dieu. Et c'est un des grands dons que Dieu fait à l'homme, en tout cas que Dieu fait aux hommes qu'il appelle à être mariés, parce que, comme le montre l'apôtre saint Paul, tous les hommes et femmes ne sont pas appelés au mariage, et il y en a qui sont appelés à servir Dieu dans le célibat. Alors là, c'est une autre question que nous n'avons pas. Mais, dans ce mariage, il y a, comme dans tous les gouvernements, il y a une hiérarchie. Même dans le gouvernement de Sorel, et donc dans le fameux, il y a l'hiérarchie du cœur qui doit dominer et maîtriser tout le reste. Donc il y a une hiérarchie, même dans le gouvernement de soi-même. C'est le cœur qui doit l'emporter, le cœur au sens du je, au sens du moi profond, au sens de la personnalité. Alors, il y a toujours une hiérarchie. Alors là aussi, le mot hiérarchie, qu'est-ce que ça veut dire hiérarchie? Ça veut dire simplement, il y a un ordre. Alors là, je vais faire un peu de théologie au sens strict, c'est-à-dire je vais toucher à la doctrine de Dieu lui-même. Du point de vue biblique, il faut distinguer et unir égalité et hiérarchie. Bon, alors là, je parle de Dieu lui-même. J'espère en parler en tout crainte de Dieu, en tout respect adorant de Dieu. Mais, si vous voulez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois personnes divines, sont égales en être, sont égales en substance. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, on dit que les trois personnes divines sont consubstantielles, c'est-à-dire assument la même substance. Alors, de même, tous les hommes sont également responsables devant Dieu, puisqu'ils sont tous créés, faits à l'image de Dieu. Donc, égalité d'être, égalité de substance. Mais même en Dieu, il n'y a pas une égalité de fonction. Parce que toutes les relations alliantielles, y compris l'alliance trinitaire, sont hiérarchiques. C'est pour ça que les théologiens ont toujours distingué la trinité ontologique, où il y a égalité de substance, et la trinité économique, où il y a subordination du Fils et du Saint-Esprit au Père en ce qui concerne la fonction, et en particulier la fonction historique. C'est pour ça qu'on distingue aussi les œuvres intérieures à Dieu et puis les œuvres de Dieu à l'extra, à l'extérieur. Alors, là, il y a une hiérarchie. Mais mon Dieu, il y a une hiérarchie. C'est pas pour rien qu'on dit la première personne de la Sainte Trinité, la seconde personne de la Sainte Trinité, la troisième personne de la Sainte Trinité. Parce que, évidemment, il n'y en a pas une première, une seconde et une troisième au point de vue ontologique, au point de vue de la substance. Hein? Ah, là, ils sont égaux, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont parfaitement égaux au point de vue substantiel, au point de vue... Bon. Mais au point de vue fonctionnel, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. C'est ainsi que Jésus-Christ, en tant que Fils, est soumis au Père. Et que l'Esprit-Saint est soumis au Père et soumis aussi au Fils. Et donc, il y a une à la fois égalité et hiérarchie en Dieu. Et bien, de même, dans l'humanité, dans les sociétés, est pleinement l'égal de l'homme en humanité. Mais fonctionnellement, dans le mariage, il y a hiérarchie, c'est le mari qui est le chef de la femme. Et la femme est appelée et invitée à se soumettre à son mari. Alors là aussi, se soumettre à son mari, c'est pas faire n'importe quoi de ce que dit le mari. Et là aussi, il faudrait parler quelle est la dignité de la femme qui, dans certains cas, doit se refuser de se soumettre, précisément parce que d'une autre façon, elle se soumet. Mais pourquoi ? Parce que le mari, le gouvernement du mari, est un gouvernement soumis au gouvernement de Dieu. Et le mari doit agir envers sa femme selon le commandement de Dieu, selon la loi de Dieu, selon ce que Dieu veut, et non pas selon ce qui lui plaît. Alors là, je m'aperçois que je manque vraiment de temps. Alors, je dirais, il faudrait voir la même chose au point de vue de l'Église. Il y a aussi là une égalité dans le sacerdoce universel. Et il y a une différence de fonction parce que les membres de l'Église doivent être soumis aux presbytéroi, aux épiscopoi, aux anciens qui sont appelés à diriger l'Église et qui ont été ordonnés pour cela. Il y a les ministres ordonnés de l'Église et chaque Église doit être soumise à ces ministres ordonnés. Et là aussi, aujourd'hui, c'est la pagaille dans la plupart des églises. On voit des choses stupéfiantes. Le nombre d'églises où on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a deux têtes de l'Église. Il y a le pasteur et le président, je ne sais pas la présidente, du conseil presbytéral. Moi, je suis dans une paroisse là, où il y a un pasteur qui se bascule, qui est un excellent pasteur, et puis il y a un président du conseil presbytéral. Alors, il y a une hiérarchie là, à la tête de l'Église, et alors d'ailleurs, ça provoque, sans qu'ils le veuillent les uns les autres, mais moi je le constate, ma femme et moi, nous le constatons, il y a une pagaille dans l'Église à cause de ça. Il y a un ordre de l'Église qui n'est plus respecté. Et alors ça, c'est au nom. Alors surtout, les pasteurs mettent leur point d'honneur aujourd'hui à ne pas paraître pasteur. Tu vois, l'idéal du pasteur, ce serait de s'asseoir dans les bancs pour écouter qui ? Mais ce serait surtout, il ne faut pas qu'il soit pasteur. Et je dirais, ce qui est grave, c'est que ce sont les pasteurs qui, à cause d'une mauvaise théologie, apprennent à leurs églises à avoir un irrespect de l'autorité du pasteur, de l'autorité des anciens. Il y a un drame. Enfin, ça, je dirais, ça fait partie de la pagaille moderne. Je dirais, ce qui est grave, c'est qu'on n'a pas encore vu toutes les conséquences. Et par cette pagaille moderne va porter, il y a le fruit de l'esprit, mais alors il y a le fruit de la pagaille moderne. On va se rendre compte d'ailleurs qu'il est multiple, comme le fruit de l'esprit, ça va une avalanche, on n'a pas encore vu l'avalanche. Mais on en voit déjà les premiers signes. Alors, il y a une pagaille générale qui s'établit parce qu'on refuse toute hiérarchie. Et au nom de quoi? Au nom de l'égalité substantielle. Mais non, justement. Il y a là à faire très attention. Alors on pourrait dire la même chose, alors au point de vue de l'État, du gouvernement de l'État. Et là aussi, le gouvernement de l'État a une tendance à la fois totalitaire. L'État veut se mêler de tout, de tout. À l'heure actuelle, il se mêle même de l'art, il se mêle même du sport. Ou, en question football, allez, il faut voir le ministre. Question artistique, il faut voir le ministre de la Culture. L'État veut tout régenter, tout régenter. C'est lui qui décide s'il faut restaurer de quelle manière tel monument, s'il faut ajouter un monument tel autre chose. Enfin, l'État veut se mêler de tout. Et alors, comme il se mêle de tout, c'est un désastre. C'est un désastre, parce qu'il n'est pas du tout appelé à ça. Et c'est, tôt ou tard, on a les conséquences. On a toujours les conséquences. Les conséquences, ce sont les sanctions. Quand les hommes n'obéissent pas à la loi de Dieu, Dieu n'a même pas besoin, si je puis dire, de sanctionner en intervenant. Dieu laisse faire. Sa sanction, c'est de laisser faire. Vous voulez que ce soit comme ça? Eh bien, qu'il en soit selon votre bon plaisir. Et c'est le jugement de Dieu qui va se manifester, parce qu'on aura les conséquences. Si je désobéis à une loi, eh bien forcément, ça se retourne contre moi. Mais d'ailleurs, on voit ça dans tous les domaines. Il y a des lois physique que Dieu a établi, des lois physiques que Dieu a établies. Et d'ailleurs, si l'on veut, par exemple avec les plus lourds que l'air, l'homme a trouvé le moyen de s'élever dans les airs, ce qui est très bien, mais je dirais, il n'a pas pu le faire sans tenir compte de toutes les lois physiques. Parce qu'il a fallu contrebattre la loi de la pesanteur par d'autres lois, et finalement, ça revient. Mais, je dirais, tandis que si je veux passer outre les lois, ben évidemment, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Chaque fois que vous outrepassez les lois, que ce soit dans le domaine mathématique, dans le domaine physique, dans le domaine sociologique, dans n'importe quel domaine, vous aboutissez finalement à des catastrophes, c'est-à-dire que ça se retourne contre vous. Et un jugement. Alors aujourd'hui, je dirais, nous n'avons pas fini de payer les désordres qu'il y a dans l'ordre social et politique. Et alors, c'est, ce qui est curieux, c'est que encore des chrétiens aujourd'hui s'imaginent qu'en utilisant telle direction ou tel moyen politique plutôt que tel autre, ça va s'arranger. Mais non, ça ne va pas s'arranger. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Moi, je crois qu'il faut laisser les choses aller. Très bien. Les gens de gauche sont au pouvoir, etc. Ça aboutit à la catastrophe, etc. Les gens de droite prennent le pouvoir, ça aboutit à la catastrophe, etc. Bon, et il faut les laisser continuer. Parce que, je dirais, tant qu'ils ne se soumettront pas aux lois établies par Dieu, ce sera forcément la catastrophe. Alors, il ne s'agit pas simplement de changer humainement de direction, c'est la même chose. Là, toutes les questions touchant le mariage, la famille, c'est pas les lois que des États pourront voter, qui vont arranger la situation. C'est tout. Et alors là, il y a tous les problèmes. L'homme ne veut en faire qu'à sa tête, que ce soit pour le gouvernement de soi-même, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans l'État, que ce soit dans la famille. Bon, tu veux que ce soit comme ça, mon ami, tant pis pour toi. Je dis ça, c'est un petit peu caricatural, mais c'est bien ça. Nous n'avons pas fini de piller la révolte des hommes contre Dieu en tous les domaines de l'existence. Non, pas fini. Hein, pas fini. Et avec ça, une bonne volonté, une bonne volonté. Alors on entend des perles. Comment j'ai encore entendu ça là, tout récemment à la radio. Au XXe siècle, des choses comme ça. Au XXe siècle. Mais le XXe siècle, au contraire, il est fait pour avoir des choses comme ça. Il en a déjà vu pas mal, mais il n'a pas fini d'en voir. Parce que tout vient fondamentalement de la révolte de l'homme contre Dieu. Alors on entendait des pères du genre aussi. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Alors ça vaut la peine de lire là. Je vous recommande les livres de Régine Pernoud sur le Moyen-Âge, en particulier du Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge était à certains égards, mais bien plus civilisé que le nôtre. Bien. Parce que malgré tout, il y avait le garde-fou de la parole de Dieu, le garde-fou de la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. J'ai toujours envie, quand j'entends cette parole, je lui dis, hélas. Nous sommes au Moyen-Âge. Hélas, nous sommes au XXe siècle. malheureusement. Alors, je voudrais... oui, mais j'ai plus le temps, c'est dommage, parce que j'ai préparé... Il faudrait parler hier, je l'avais dit à propos d'une question que l'on entendait, de la pénologie. Toujours de la pénologie. Alors, comme je n'ai pas le temps de le développer, que je veux m'arrêter là maintenant, je voulais simplement vous dire, il faut lire, il y a deux ouvrages qu'il faut lire, malheureusement en anglais, parce qu'en français il n'y a rien, enfin, il y aura peut-être quelque chose, puisque j'ai les notes, j'accumule les notes en vue d'un livre qui devrait paraître l'année prochaine, j'espère. Et au point de vue pénologie, vous avez deux ouvrages qui ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Il y a d'abord ce que dit de la pénologie, et donc du droit de l'État et des sanctions que l'État a le droit d'infliger. Il y a ce que dit Bahnsen dans son livre, je vous recommande plutôt le second de ses livres, « By This Standard ». Alors là, c'est un livre qui est d'ailleurs clair, nourri de références bibliques, enfin c'est un très bon livre. Et puis alors, il faut le lire avec un livre de Paul Fraisse, que je vous ai indiqué, et vous pouvez avoir le titre dans la feuille que je vous ai remise, c'est « L'ombre du Christ sur la loi de Moïse », ou « Dans la loi de Moïse »,« The Shadow of Christ in the Law of Moses ». Et ce sont deux livres complémentaires. Alors, Bahnsen, je dirais, il a le point de vue théonomiste rigoureux. Et Paul Fraisse, lui, a le point de vue théonomiste modéré. Quand je dis rigoureux et modéré, je veux dire par là que Bahnsen, quelquefois, est trop littéraliste. Me semble à moi un peu trop littéraliste. Et tandis que ce que j'aime dans le point de vue théonomique de Paul Fraisse, c'est que lui, au contraire, il est très nuancé, tout en voulant vraiment suivre l'écriture autant que Bahnsen le veut. Ce sont deux hommes qu'une chose rapproche, c'est leur désir d'être fidèles à l'écriture. Mais alors, Bahnsen, sa tentation, je dirais plutôt sa tentation, serait, je ne dis pas qu'il y succombe toujours, ni même souvent, mais sa tentation, si vous voulez, c'est d'être trop littéraliste. Tandis que Poitras écoute un peu les sons divers de l'écriture. Quelquefois, il essaye de dire, oui, c'est vrai que l'écriture dit ça, mais elle dit aussi ça. Et alors, comment pouvons-nous accorder les deux? Vous voyez, c'est en ce sens que il est, me semble-t-il, plus nuancé. Mais alors, la meilleure des choses, c'est de lire les deux, c'est d'essayer de lire les deux, et de se faire une opinion soi-même, n'est-ce pas de... Vous savez, à l'heure actuelle, je vous l'ai déjà dit hier et avant-hier, je crois que nous sommes devant de telles catastrophes provoquées par l'humanisme, par la religion de l'homme, que nous devons revenir de tout cœur à la parole de Dieu, et en particulier non seulement à l'Évangile, mais en même temps et du même coup à la loi de Dieu. Et alors, il nous faut scruter l'Écriture. Alors je crois que ces hommes très différents sont en train de faire ça. Ils divergent sur certains points, ils s'opposent même sur certains points, mais leur désir de suivre l'Écriture est très grand. Et alors, vous savez, il faut un certain temps de décantation. Au moment de la Réforme, ça s'est passé comme ça. C'est passé comme ça. La Réforme ne s'est pas faite en un jour. La Réforme, il a fallu une cinquantaine d'années pour toute l'élaboration de la Réforme. Alors, il y a eu des oppositions entre les réformateurs, mais il y avait une volonté commune des réformateurs. Et finalement, peu à peu, les choses se sont mises en place. Voilà. Alors, excusez-moi, là, vous voyez, j'avais, sur la pénologie, j'avais pris la peine de... Je saute tout ce que je comptais vous dire, mais que je ne pouvais pas vous dire dans le laps de temps qui m'était imparti. Alors, c'est pour ça que je vous recommande ces deux livres, qui a évidemment porté sur la pénologie. Mais je suis tout à fait disposé à faire ce que vous souhaitez maintenant. Si vous désirez que je dise quelques mots de la pénologie, je le ferai. Mais peut-être y a-t-il dans l'esprit de tel ou tel une question ou une précision à apporter. Alors je... je vous laisse là un peu mettre la situation.
Oui, en fait, moi j'ai deux questions. Que pensez-vous alors au niveau du gouvernement de l'État, si effectivement l'État n'est plus vraiment à sa place? En tant que chrétien, est-ce qu'il faut voter? Oui ou non? Et si oui, est-ce qu'il faut voter à tout prix blanc? Ou est-ce quand même on peut être pour un parti politique sans y être engagé absolument, quoi? Et par extension, si le vote est faisable, ce que je pense, comment le chrétien peut se situer au niveau politique pour essayer d'arranger le problème? Pour essayer d'arriver au fait que l'État reprenne sa place ainsi que l'Église. Parce que, en tant que chrétien, il faut nous arranger l'Église, mais en tant que citoyen, il faut quand même qu'on arrange l'État, quoi. Et bien souvent, on ne s'engage pas en politique parce que c'est. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes parce qu'on est contre le système politique. En fait, c'est un peu la solution pour ne pas en faire, quoi.
Le point de vue que j'appellerais piétiste consiste, me semble-t-il, à dire on n'a rien à faire avec tout ça, il n'y a que l'évangélisation, qu'importe, pour que si nous adressons appel à tous, il y en ait qui se convertissent. Bon, ça c'est le point de vue piétiste. Et puis il y a le point de vue que j'appellerais des chrétiens dits, entre guillemets, engagés. C'est-à-dire des chrétiens qui se disent « mon devoir en tant que chrétien, c'est d'entrer dans le combat politique, donc pour entrer dans le combat politique, de faire partie d'un parti politique et de consacrer une partie de mon temps à ça ». Alors je crois, si vous voulez, que aussi bien le point de vue dit piétiste que le point de vue dit engagé sont pas bons. Et cependant, ont chacun un élément de vérité. L'élément de vérité du piétisme, c'est que la priorité, c'est d'évangéliser. Mais la différence que j'aurai avec les piétistes, c'est que, si vous voulez, évangéliser, qu'est-ce que c'est? Alors c'est là où je me tourne vers ce que je vous ai dit hier au sujet du rapport loi-évangile. En fait, la vraie évangélisation ne consiste pas simplement à appeler les hommes à se convertir, mais il faut leur montrer par la parole de Dieu, par la loi de Dieu, justement, quelles sont les vraies questions, y compris, je dirais, les questions touchant à l'ordre sociopolitique ou autre. Autrement dit, pour le piétiste, l'évangélisation, ça consiste simplement à dire aux gens « convertissez-vous, donnez votre cœur à Jésus-Christ ». Alors, bien entendu, c'est tout à fait souhaitable que les gens se convertissent et donnent leur cœur à Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire les choses comme ça pour évangéliser? Est-ce qu'il ne faut pas prendre les choses, je dirais, dans une vérité plus profonde et plus... je pense, si vous voulez, toujours à la fameuse fin de l'évangile selon saint Matthieu, parce que les paroles de Jésus sont là: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, je crois que l'évangélisation consiste non pas simplement en un appel à la conversion, mais en indiquant, en soulignant quelle est la volonté de Dieu, quelle est la loi de Dieu, ce que dit la parole de Dieu de ce qui doit être vrai. Et c'est là où je dis qu'il y a une prédication de l'Évangile qui doit comprendre la prédication de la loi. Et je fais une petite remarque à ce sujet. Au fond, quand les apôtres et les premiers évangélistes ont commencé à évangéliser, ils n'ont pas évangélisé vraiment des gens semblables à nos athées modernes. Ils ont évangélisé d'une part les juifs et d'autre part les prosélytes, ceux qui tournaient autour des citadelles, qui avaient déjà une certaine base. Or, cette base manque à nos contemporains. Moi, je crois que, avant de dire aux gens « convertissez-vous », il faut leur montrer de quoi ils ont à se convertir. Et quelles sont les choses qui ne sont pas normales et qui ne vont pas. Alors, je dirais, il faut donc, pour l'évangélisation, une vraie prédication et un véritable enseignement. Et vraiment, il ne s'agit pas d'appeler les gens à se convertir, parce que tout ça, ça risque uniquement d'être des mots en l'air. D'ailleurs, c'est très souvent, on a constaté que là où l'évangélisation piétiste porte des fruits, c'est lorsqu'elle touche déjà des gens qui ont une substance biblique de la connaissance. Et on a fait une remarque, moi j'ai connu ça parce que dans ma première paroisse, il y avait un poste de l'armée du salut. Si vous voulez, l'armée du salut n'a de converti presque toujours que dans les coins protestants où il y a déjà une certaine connaissance de la Bible. C'est-à-dire qu'au fond, l'armée du salut se trouve dans la même situation que les premiers évangélistes, y compris les apôtres, si vous voulez, qui évangélisaient à des gens qui avaient déjà une certaine connaissance de Dieu, de sa parole. Mais là où ça n'existe pas, c'est pour ça que l'armée du salut, on ne la voit pas tellement évangélisée là où il n'y a pas cette base sociologique protestante préalable. Alors où est-ce qu'il y a des postes d'armée du salut ? Ce sera dans des coins comme l'Ardèche, ou ce sera dans certains coins de l'Alsace, ou je veux dire, ce sera là où stratégiquement, je ne parle pas des grandes villes, parce que dans les Paris et dans les grandes villes, c'est ce qui agit très souvent. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, évangéliser, ça consiste à enseigner. On peut ne pas dire enseigner. Et entreprendre des gens. Et alors, de quoi qu'ils vous parlent ? C'est ça qui est intéressant. Vous savez, quand vous vous trouvez dans un compartiment de chemin de fer et que vous parlez à des gens, ou des gens rencontrés, que sais-je, dans un lieu social quel qu'il soit, et que vous engagez une conversation, de quoi qu'il soit question, vous pouvez essayer d'apporter le point de vue de la parole de Dieu, quel que soit le sujet. C'est ça qui est intéressant. Qu'on parle de politique, qu'on parle de questions culturelles, qu'on parle des mœurs ou du désordre des mœurs, qu'on parle de l'homosexualité, de n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est qu'évangéliser ? C'est accepter l'entretien sur le point soulevé par la personne avec qui vous parlez, et puis lui dire, ben, voilà au fond ce que la Bible dit. Et c'est l'expérience montre, enfin moi je peux parler de ma petite expérience sur ce sujet, si vous voulez, c'est que ça marche. Les gens ne savent absolument pas ce que dit la Bible, ils n'ont jamais ouvert la Bible, ils ne savent absolument pas. Ils sont soufflés quand ils s'aperçoivent que la Bible touche à tous ces points, qu'il n'y a pas un seul point d'existence auquel, directement ou indirectement, la Bible ne touche pas. Et alors, à partir de là, c'est déjà de l'évangélisation. Parce qu'en même temps que vous apportez l'enseignement, je vais dire, de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, vous apportez l'évangile de Dieu. Et vous pouvez montrer pourquoi les choses ne vont pas et de quoi il faut se repentir. Et alors là, vous pouvez rencontrer des gens qui sont très divers. Vous vous entretenez avec un homosexuel. Vous vous entendrez avec un homme ou une femme qui vit dans l'adultère. Vous vous adressez à des gens qui sont qui se posent la question de la peine de mort ou n'importe quoi. N'importe quel sujet est bon. Et c'est pour ça que je combats vigoureusement l'idée il ne faut pas parler de la pluie, du beau temps, de n'importe quoi avec les gens, mais il faut leur annoncer Jésus-Christ, leur annoncer l'Évangile. Vous allez plaquer un truc qui n'a aucun rapport avec l'existence des gens. Et même la pluie et le beau temps. Et on peut même parler de la pluie et du beau temps. Parce que les gens, ils n'aiment pas qu'il pleuve. Mais il y en a qui sont bien contents quand il pleut, tout dépend dans quelles circonstances on se trouve. Il y a des gens qui sont en vacances, ils manquent une chose, c'est qu'ils fassent beau. Bon, mais d'accord, mais il y a des agriculteurs auxquels il leur tarde de voir tomber la pluie. Quelquefois, au contraire, ils sont très embêtés parce qu'ils tombent plus. Non, mais enfin, peu importe, même la pluie et le beau temps, ça n'est pas indifférent. Et la Bible aussi nous apprend que quelquefois le jugement de Dieu se prononce par des circonstances du temps, de la météo, comme on dit aujourd'hui, parce qu'on fait la confusion, on dit où il y a une mauvaise météo, pour dire quand il fait mauvais temps. Mais non, c'est une très bonne météo, quelquefois, qui nous indique qu'il fait mauvais temps. Je veux dire, la météo, c'est une chose, et le temps, c'est autre chose. Tandis qu'aujourd'hui, la météo, le temps, là, on fait, c'est la salade. Alors, il faut, vous voyez, l'évangélisation, c'est passionnant, à partir du moment où on se résout à ne pas annoncer, là, comme ça, ex abrupto Jésus-Christ, d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est qu'annoncer Jésus-Christ à des gens qui n'ont aucun sens de Dieu, aucun sens du péché, aucun sens de ce que dit la Bible, aucun sens de rien. Ils sont complètement ignorants. Alors on leur dit, oh, vous savez, il faut vous convertir à Jésus-Christ, il faut donner votre cœur. C'est des mots. Tandis que l'évangélisation, ça doit être quelque chose de profond. Et alors, vous amorcez ça dans un entretien. Vous amorcez ça dans un entretien. Et vous avez des gens, c'est... Enfin, moi, je l'ai vérifié à plusieurs reprises, vous avez des gens qui vous enquiquinent après, qui reviennent à vous sans arrêt. Quelquefois, on se dit, mais c'est terrible, mais c'est passionnant. Parce que c'est des gens, vous avez commencé à amorcer quelque chose, il faut le continuer. Ça peut demander des mois, quelquefois. Ça peut demander des mois. Mais c'est évangélisé. C'est pour ça que ça a été très très long pour que le christianisme se répande dans les campagnes. C'est pour ça, d'ailleurs, que le mot paysan, pagani, païens, paysans, c'était le mot synonyme au départ. C'est parce que c'est dans les villes, et là où autour souvent de la synagogue, presque toute l'évangélisation du 1er siècle et du début du 2e se sont faites autour des synagogues. D'ailleurs, systématiquement, les apôtres et les évangélistes, ils commençaient par se rendre dans les synagogues. Quelquefois, on les fichait à la porte, nos enfants, on acceptait de les entendre, mais ça, et puis alors, il y avait le noyau, surtout de ce qu'on appelait les prosélytes, les craignants de Dieu. Les craignants de Dieu, alors il y avait les craignants de Dieu, c'était déjà qu'il y avait des gens qui avaient un commencement d'instruction biblique, qui avaient déjà une petite idée de ce que disait la parole de Dieu. Alors, vous pouvez les envoyer. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, si vous voyez, mais je crois très important de rejeter la manière piétiste d'évangéliser. Et le fait de croire à des espèces, presque de mots magiques. Et moi, je crains qu'il y ait un peu de la magie dans la manière dont certains piétistes évangélisent. Parce que, alors là où quand même ça peut marcher, c'est dans un milieu où il y a déjà une connaissance. Alors vous allez au chambon sur le lion, paf, il y a la Méditerranée. Vous allez à la boue sur l'eau, paf, il y a la Méditerranée. Et alors, souvent, c'est dommage, parce que souvent, l'armée du salut va, je dirais, pique aux églises. Déjà, alors si c'est pour faire vraiment des salutistes, c'est très bien. Mais souvent, je dirais, ça prend des éléments à des églises qui seraient bien mieux à leur place dans l'église, parce que j'aime beaucoup à côté de ça, j'aime beaucoup l'armée du salut, j'ai des amis salutistes, mais je dirais, l'armée du salut, au fond, ne réussit vraiment, au point de vue évangélisation, que là où il y a déjà un terreau qui a eu une certaine formation biblique. Mais aujourd'hui, on n'en est plus comme ça. Nous n'aurons plus affaire à des gens qui sont comme ça. Alors là, il y a une base, quelquefois, où on peut partir. Je termine par là, c'est le baptême. Parce que, je précise, vous avez des gens qui savent qu'ils ont été baptisés. Et c'est un point de départ formidable dans un entretien. Alors des gens vous disent, moi je suis complètement agnostique, je crois à rien. D'abord on peut leur montrer que c'est pas vrai. Personne ne croit à rien. On peut croire en des tas de choses, mais tout le monde croit en quelque chose. Bon, alors si on croit si on était logique et qu'on croit vraiment à rien, on se suiciderait. Mais le fait est que les gens croient quand même. Ils croient toujours. Alors, je crois en rien, il faut toujours le rejeter. Et puis, on peut toujours poser la question, mais est-ce que vous avez été baptisé? Parce que si c'est... Alors, il y a des gens aujourd'hui, il y en a quand même un certain nombre qui peuvent dire non. Mais si quelqu'un vous dit, j'ai été baptisé, on peut poser la question, c'est, est-ce que vous savez ce que signifie le baptême? Ça, c'est un très bon avantage. Parce que, tu méfies le bonhomme ou la bonne femme qui vous répond non. Mais vous avez été baptisé, vous savez ce que ça veut dire être baptisé? Alors, on a un engagement là, et ça, c'est important. Alors là, dans des vieux terroirs français, un peu à la campagne justement, où il y a des gens dont personne n'a été baptisé, comme la Creuse, il y a des gens où tout le monde a été baptisé, enfin ça dépend des départements, des régions. Alors là où des gens ont été baptisés, c'est intéressant. Alors on va parler de votre baptême. On va parler qu'est-ce que c'est que le baptême. Alors ça fait un point de départ. Un point de départ. Mais on a toujours, quel que soit, moi ce qui me passionne de plus en plus au fur et à mesure que j'avance dans la vie, enfin que j'avance, je regresse en un certain point de vue, mais bon, c'est que tout est opportun pour annoncer la parole, loi de Dieu. Tout est opportun, quel que soit le sujet. Tandis que pour le piétiste, il y a des sujets proprement spirituels, il ne faut pas perdre son temps à parler de ci, de ça, il faut tout de suite, mais non. Il faut prendre les gens là où ils en sont et à partir de là où ils en sont, il faut leur parler. Parce que la Bible parle de là où ils en sont. C'est pour ça que même l'enseignement de la dogmatique, à mon sens, devrait être complètement réformé. Parce que la Bible ne se présente pas à nous comme un traité de dogmatique, mais se présente à nous avec une histoire. Avec une histoire. Et donc il y a un mouvement de la Bible et tout ça. C'est pour ça que c'est très dangereux de dire aux gens non, il faut distribuer le Nouveau Testament. Il y avait des gens qui font la distribution du Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament est complètement incompréhensible sans l'Ancien. Complètement incompréhensible. Alors, non, alors on peut parler de. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long là, mais c'est important. Reprendre la question de l'Évangile. Et c'est pour ça que c'est quand même les églises qui sont le mieux placées pour évangéliser dans la mesure où, si vous voulez, tous les membres d'une église, qu'ils le veuillent ou non, sont en rapport avec des gens qui, sur un point ou sur un autre, se posent des questions, se posent des problèmes, tout ça. C'est là où intervient la question politique. Quelle est l'allusion ? Moi, je crois qu'il ne faut pas faire partie d'un parti. Pourquoi ? D'abord, on ne peut jamais être d'accord. Et puis alors, on a un truc en France qui est magnifique. Dès que des gens de gauche avancent un truc, tous les gens de droite sont contre. Et dès que quelqu'un de droite avance un truc, tous les gens de gauche... Je dis, on ne s'occupe pas de la question posée, on s'occupe de la réponse que fait le parti, ou font tes partis, que ce soit les partis d'une majorité. D'ailleurs, c'est terrible de dire la majorité et l'opposition. Parce que la majorité d'un temps et l'opposition d'un autre, alors on n'y comprend plus rien. Mais je crois qu'il ne faut pas faire partie d'un parti politique, mais il faut s'intéresser aux questions politiques et essayer d'apporter toujours la réponse qu'apporte la Bible à telle ou telle question. Et alors montrer qu'il y a une espèce de sagesse de la Bible. Alors, vous savez, il y a ce passage que je trouve très beau dans le livre du Deutéronome, c'est au chapitre... Oui, alors, si vous voulez, dans le livre du Deutéronome, vous avez un certain nombre, je m'aperçois qu'au fond, c'est tout un ensemble de réponses que ça. Donc, par exemple, vous avez tout le passage magnifique qui est un évangile là, dans le Deutéronome, au chapitre 7. Tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Et puis alors là, il y a tout. Le Seigneur vous aime. Il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Le Seigneur vous a fait sortir à main forte, vous a libéré. Tu reconnaîtras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Voilà. Alors il faut, si vous voulez, prendre vraiment à cœur tous ces passages de l'Ancien Testament, ou bien quand il est dit au sujet de l'enseignement des enfants, l'instruction, on a parlé là un peu du mariage de la famille, je n'ai pas eu le temps de parler d'éducation. Au fond, il y a un rôle primordial de la famille dans l'éducation des enfants. Où il est dit, ça c'est la suite du chemin d'Israël. Après avoir dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, bon, il est dit, ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est vraiment ça. Les paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. quand tu iras en voyage, ça c'est très bon pour les compartiments de chemin de fer et autres, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, hein, c'est ça, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Toutes ces paroles que je t'ai données, tu dois les garder dans ton cœur. Et puis, tu dois les inculquer à tes enfants, et tu dois en parler, quoi que tu fasses, en particulier chez toi, mais aussi quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et tu te lèveras, quelles que soient les circonstances, en parlant. Ben, c'est ça, l'évangélisation. Alors, c'est là où ça... C'est pas un truc, là, à la va-vite, une soirée d'évangélisation. Moi, je veux bien qu'il y ait des soirées d'évangélisation, je suis pas con, j'en ai tenu. Mais, je dirais, le plus important, c'est le témoignage d'une Église qui connaît sa parole de Dieu, qui connaît la loi de Dieu, qui fait pénétrer ces paroles de Dieu et cette loi de Dieu dans son cœur, et qui cherche à enseigner. Nous avons une tâche d'enseignant. Tout chrétien a une tâche d'enseignant chez lui, et en voyage, et dans ses rapports avec, ses camarades professionnels, c'est ça l'évangélisation. Et c'est comme ça que le christianisme s'est développé. Ce sont des marchands, ce sont des marins, ce sont des gens qui souvent n'étaient pas du tout des classes intellectuelles ou autres, c'était vraiment des gens du peuple, mais qui connaissaient le Seigneur et qui connaissaient sa parole. Et c'est eux qui ont parlé de l'un à l'autre et tout ça. C'est pour ça que ça a été fulgurant. En 50 ans, le christianisme s'est développé de l'an 70 jusqu'à 120. Là, il y a eu 50 années où il y a eu une explosion du christianisme tout autour de la Méditerranée. Et c'est fait parce que les chrétiens ne pouvaient pas s'empêcher de parler de cette parole de Dieu qu'ils avaient reçue, qu'ils avaient fait pénétrer dans leur cœur. Attendez,
Vous savez qu'aux Pays-Bas, et certainement ailleurs, il existe des partis politiques chrétiens. Même aux Pays-Bas, il y a des partis politiques réformés, tout le tralala. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, je pense d'abord que dans un pays comme la France, c'est pas terrible. Eh bien, il faut voir. Moi, je vois ce qu'a parlé le Parti démocrate chrétien en Italie, ou le CDU en Allemagne. Et quand je pense à toutes les concussions, à tous les détournements de fonds, à toutes les saloperies qu'ont opéré ces partis, et tout ça, moi je me méfie tout à fait de ce genre de parti politique.
Vous savez, Groen Van Pesterer a fondé un parti contre-révolutionnaire.
Oui,
c'est plutôt ce genre de parti que je faisais allusion.
Oui, mais je dirais, je crois que très vite, les choses ont dévié. Ouais. Très vite, elles ont dévié. Au point, par exemple, qu'un des... attendez, il ne faut pas que je me trompe, qu'un des petits-fils d'Abraham Kuyper, qui était un Kuyper lui-même, s'est engagé dans la Légion nazie. Je crois que c'est très difficile, étant donné le système des partis dans les pays occidentaux, je ne crois pas. Je crois beaucoup plus que, d'abord, il faudrait que les églises prêchent la parole de Dieu. Parce que si, dans votre prédication, vous abordez ces questions, or ce sont les textes sur lesquels on ne prêche pas. Moi, on ferait une collection des textes sur lesquels il est prêché dans les églises protestantes en France, par exemple, je crois qu'on pourrait y avoir une brochure de 80 pages. Voilà, ça c'est les textes sur lesquels on prêche. Alors, si vous voulez, vous avez des centaines de pages à côté de ça, dont on ne parle jamais. Alors, je ne veux pas dire qu'il faille reprendre systématiquement la prédication d'un saint Augustin ou la prédication d'un Calvin qui était de prendre des livres bibliques à la file. Bon, je ne dis pas que... Mais au moins, que je crois par exemple qu'une série sur le Deutéronome, c'est pour ça que je vous ai indiqué la lecture des sermons de Calvin, il a prononcé 200 prédications sur le Deutéronome, Calvin. Oui, c'était pas terrible. Parce que comme il prêchait tous les jours, à 365 jours par an, vous avez plus que le temps de faire vos 200 prédications sur le Deutéronome. Mais c'est passionnant, parce que si vous lisez ça, Calvin est en plein dans son temps. Il applique immédiatement, ça ne veut pas dire littéralement, mais il applique honnêtement et systématiquement tout ce qu'il lit dans le Deutéronome à ces gens qui l'écoutent. en montrant... Bon, alors moi je crois que c'est la première chose à faire, refaire des prédications qui soient un enseignement. Or, comme on ne peut pas bien tout de suite, les gens, ça les démange dès que ça dépasse 20 minutes, une prédication. Mais c'est une blague, parce que en fait, vous avez des... Moi j'ai entendu certains prédicateurs, vraiment, je ne parle pas de hollandais, mais on peut très bien prêcher une heure. Les gens vous écoutent si, justement, vous abordez dans la prédication, comme le fait la Bible, les problèmes que se posent vraiment les gens. Bon, il faut encore le détailler, il faut encore le préciser. Donc il faut suivre l'enseignement de la Bible. Mais par exemple, parler du mariage en utilisant Éphésiens 5, c'est formidable. Parce qu'en même temps que vous parlez du mariage, vous êtes obligé de parler du Christ et de l'Église. Et vous êtes obligé de parler de l'amour de Jésus-Christ pour son Église, qu'il aima jusqu'à donner sa vie pour elle. Bon, c'est formidable. Donc, vous allez à la fois prêcher l'évangile de Jésus-Christ et la croix de Jésus-Christ et le don que Jésus-Christ a fait de sa vie, et en même temps, vous allez parler de ce que c'est que qu'être le mari d'une femme et la grandeur d'être le chef de la femme. Est-ce que ça représente de devoir, ce que ça représente d'application, de soins, de comme le Christ prend soin de son Église, veille sur elle. Alors vous touchez les gens, je vous assure, si vous faites une prédication sur Éphésiens 5, comme ça, vous touchez les gens, parce que dites-vous que sur 100 personnes qui vous écoutent, vous en avez peut-être un tiers, et encore peut-être je suis en dessous de la vérité, vous en avez un tiers où il y a des problèmes conjugaux. Un tiers. Ils vont être touchés, ces gens-là, parce que vous leur parlez de choses qui je dirais, c'est leur problème. Et alors ça les éclaire à la fois sur Jésus-Christ, sur l'amour de Dieu, et sur la réalité de ce que doit être et peut être une vie conjugale. Mais c'est la même chose pour bien d'autres choses. Et il ne faut pas être théorique. Je prends une question, par exemple, comme celle du prêt à intérêt. Or, le prêt à intérêt dans l'Ancien Testament, on dit au Moyen-Âge, en suivant Aristote d'ailleurs, on enseignait que la Bible, que la parole de Dieu était contre le prêt à intérêt. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus... Parce que on peut prêter à intérêt, mais il y a une interdiction de prêter à intérêt au frère qui est pauvre. Ah oui, mais c'est au frère qui est pauvre. Alors là, il faut prêter sans intérêt. Alors ça, il faut l'enseigner aux gens. Ça, il faut l'enseigner parce que ça les éclaire à la fois sur ce qui est légitime dans le prêt à intérêt et ce qui est illégitime. Autrement dit, vous touchez à des tas de questions. L'usure, c'est terrible. Vous avez vu cette histoire incroyable de ce zigoto qui a empoché je ne sais pas combien de centaines de millions parce qu'à des tas de gogos, il promettait des 30% d'intérêt par an. Et le plus fort, c'est qu'il y a un agent du Trésor qui a fait partie de ses victimes. Un type qui était agent du Trésor. Et ça ne l'a pas étonné que l'autre promette 30% d'intérêt, c'est lui. Bon, ben, on est en plein dans... Voilà, vous discutez avec des gens qui vous parlent. Vous avez vu cette histoire? Eh ben voilà, c'est une occasion d'évangéliser. À ce moment-là, vous avez immédiatement, avec un truc, c'est pour ça que j'aime bien quand même écouter la radio et lire de temps en temps, je ne lis pas intégralement un journal, mais je lis quelques articles dans un journal. C'est très important, parce qu'on est en plein dans l'actualité et dans ce que dit la Bible, tout de suite. Alors, il fait, quel que soit le sujet. Allez.
Je me pose quand même la question des chrétiens qui veulent faire de la politique. Quelle stratégie peuvent-ils mettre en place pour ne pas se compromettre avec le système des partis ou je ne sais trop quoi ?
Ben c'est très difficile, parce que le système démocratique occidental est presque exclusivement un système de partis. Je ne vois pas comment un protestant, un chrétien, pourrait dire « Ah ben moi, je suis appelé par Dieu à faire de la politique, comment il va se débrouiller pour ne pas tomber dans le carcan d'un parti ?» Mais moi, vous avez eu des gens qui ont été comme ça. Vous avez eu en particulier au XIXe siècle certains députés catholiques, parce que les protestants n'en avaient pas à ce moment-là, qui quand même ont des interventions qui étaient vraiment des témoignages. Seulement, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? C'était encore possible au XIXe siècle, maintenant au XXe siècle c'est très difficile. Vous êtes tenu à ce qu'on appelle la discipline de parti. discipline du parti. Et alors si, dans une question, vous ne votez pas comme le parti vous dit qu'il faut voter, vous risquez d'être ipso facto chassé du parti. C'est ça qui est la question.
J'ai une question, c'est vrai que sur les différents gouvernements, que ce soit la famille qui l'église ou les aides, il y a beaucoup de choses à changer. Mais je crois que ce n'est pas en changeant des lois ou des structures ou des constitutions que ça va changer.
Non.
Parce que le changement va venir des individus. Mm. Si la base change, le reste va changer.
Voilà. Là, vous touchez à un point très important. Depuis le 19e siècle, on veut faire toutes les révolutions par le haut. Hein? Pas du tout. La vraie révolution, enfin j'entends révolution pacifique, et c'est pas une révolution de violence et de meurtre, elle se fait à partir d'en bas. Je dirais, c'est pour ça que le travail doit être un travail à la base. C'est quand il y aura suffisamment de chrétiens dans un village, dans une ville, et que ces chrétiens diront ce que la Bible ordonne et montreront qu'il faut à la fois vivre de pardon et vivre d'obéissance, que vous pouvez changer. Moi, je suis sûr, par exemple, que, vous savez, un village peut changer. Un quartier de ville peut changer. Alors, moi, je crois beaucoup, là, vous touchez un point important, je crois qu'en effet, il ne faut pas penser, essayer d'avoir le pouvoir en haut pour imposer ensuite les choses, parce que ça ne peut pas marcher. Il faut faire l'inverse. Ce qu'il faut, c'est à la base construire. Comment on peut construire? Alors là, ça peut être intéressant parce que, même au point de vue syndical, ça c'est pas tout à fait politique, mais au point de vue syndical, là, je crois que les chrétiens peuvent jouer un grand rôle. À condition que leur syndicalisme soit un syndicalisme établi à la lumière de la parole de Dieu. Mais là, c'est possible. Surtout dans une petite entreprise. Vous savez, je ne sais plus à partir de combien. Je crois que c'est à partir d'un certain nombre. Bon, quel est le nombre d'employés ou d'ouvriers dans une entreprise? Vous devez avoir un syndicat. Ou,
50.
Comment?
50.
50. Bon, et bien là.